Et à l'une de la science, un nouveau pas vers la compréhension de la vie grâce à Cérès, cet astre de notre système solaire qui passionne les exobiologistes en quête des premières traces de vie. Après la découverte de geysers de vapeur à sa surface en 2014, la sonde Dawn de la NASA nous envoie depuis 2015 des photos et des mesures de la planète naine apparemment très active. Et cette fois, ce sont des molécules organiques que pensent avoir détectées les scientifiques. Louis Dendecourt, bonjour. Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes astrochimiste, directeur de recherche au CNRS, vous êtes par téléphone depuis votre laboratoire à Marseille. Et puis dans ce studio avec nous, Philippe Hénarejos, rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Louis Dendecourt, vous avez été surpris par cette découverte publiée aujourd'hui dans Science?
J'ai été très intéressé, mais je n'ai pas été surpris. Il faut bien comprendre que les molécules organiques, on en trouve quand même beaucoup, dans beaucoup d'objets extraterrestres, interstellaires, on en trouve dans les comètes, on en trouve dans les sur les astéroïdes, en particulier les astéroïdes riches en carbone. Donc ça n'est pas a priori une véritable surprise, sauf je dirais peut-être pour un scientifique par la qualité des données qui est vraiment très bonne. Mais je ne trouve pas ça extrêmement surprenant.
Quand on dit que ces molécules organiques, ces composés aliphatiques, tels qu'ils sont nommés dans la publication, sont des briques de base pour l'apparition de la vie, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, faut un tout petit peu se méfier, parce que finalement, le gros problème, c'est qu'il ne faut pas nécessairement se dire qu'à partir du moment où on a des molécules organiques, on a nécessairement de la vie. La vie est un phénomène basé sur la chimie organique, c'est tout à fait vrai, mais à l'heure actuelle, comme on ne sait pas exactement quels sont les fondements de l'origine de la vie, eh bien, on a beaucoup de mal à se dire, tiens, quand on voit des molécules organiques, par exemple, sur Cérès, est-ce que ça pourrait signifier que l'origine de la vie pourrait remonter à une petite planète comme celle de Cérès, par exemple. Alors, lorsqu'on parle ensuite des briques moléculaires de la vie, on parle bien entendu d'une vie qui est tout à fait similaire à la nôtre, dans laquelle on a par exemple les acides aminés qui composent les protéines, on a aussi les sucres qui vont aider à composer ce qu'on appelle l'ARN et l'ADN, qui sont absolument essentiels, bien entendu, dans les mécanismes de reproduction génétique de la vie. Mais bien entendu, ces molécules, elles peuvent exister par elles-mêmes et être totalement, je dirais, inertes et pas nécessairement sous forme vivante ou prévivante. On peut très bien synthétiser ces molécules par la chimie organique sans avoir aucun phénomène vital qui soit responsable de l'organisation de la matière.
Philippe Hénarejos, en 2014, on a découvert des geysers sur Cérès. Ça veut dire qu'il y a de l'eau aussi?
A priori, ça veut dire qu'il y a au moins de l'eau peut-être sous forme de glace, on n'en sait rien. Ça ne veut pas dire qu'il y a un océan sous Cérès, peut-être c'est le cas, mais pour l'instant, à ce stade, on ne le sait pas. Mais effectivement, il y a de l'eau qui s'échappe de la planète à la faveur de phénomènes qu'on ne connaît pas encore. Ça peut être le chauffage du soleil ou autre chose.
Louis Dendecourt, est-ce qu'on peut imaginer des conditions qui aboutissent à l'évolution de ces briques vers la vie sur Cérès, ou il faut tout de suite couper l'herbe sous le pied à cette hypothèse?
Alors il faut faire extrêmement attention, bien entendu, parce que je pense que la très très grande majorité, sinon la quasi-totalité des scientifiques, vous expliqueront tout de même qu'il faut de l'eau liquide, sous forme liquide, et bien entendu des molécules organiques, et ensuite une forme d'énergie libre, c'est-à-dire de l'énergie, pour pouvoir effectivement activer une chimie qui soit utile, je dirais, à quelque chose. Donc, le fait est, c'est que sur Cérès, il n'y a pas réellement d'atmosphère, du moins pas d'atmosphère au sens où on l'entend, lourde et qui permettrait la présence d'eau liquide. Donc il y a peut-être de l'eau en sous-sol, mais on n'en sait encore trop rien. Hein. Il faut bien voir que, par exemple, lorsqu'une comète comme Rosetta s'approche du Soleil, on voit bien s'échapper des geysers d'eau, entre guillemets, mais c'est de l'eau, bien entendu, qui se vaporise directement de la glace à la vapeur sans passer par l'état liquide. Donc on ne connaît pas suffisamment encore les conditions de l'eau sur Cérès pour pouvoir dire, bon, on a par exemple de l'eau liquide plus des molécules organiques, ce qui serait évidemment déjà un énorme progrès.
Oui. Philippe, on prend tellement de précautions, mais ça a un intérêt de parler de Cérès aujourd'hui réellement alors?
Oui, ça a un intérêt parce que ce corps-là, il est quand même atypique dans la ceinture d'astéroïdes. Je rappelle que c'est entre Mars, c'est les orbites qui se trouvent entre celles de Mars et de Jupiter. Oui. Il y a tout un tas d'astéroïdes, donc. Et parmi ces astéroïdes, Ceres est le plus gros, il fait à peu près 950 km de diamètre. Et quand même, dans les modèles dynamiques du système solaire qui essaient de nous raconter comment les planètes se sont formées, etc., il y a plusieurs milliards d'années, il y a eu une espèce de jeu de quilles planétaires avec Jupiter et Saturne qui ont un peu bougé sur leur orbite et qui sont venus injecter des corps célestes glacés primordiaux qui sont fabriqués au-delà de Neptune, c'est-à-dire très loin du Soleil, donc qui comportent des roches, mais aussi de la glace. Et Cérès serait l'un de ces survivants, de ces petits corps, à partir desquels peut-être les planètes se seraient formées. Donc, étudier Cérès, y chercher des molécules organiques, savoir quelle est leur origine, si elles ont été importées par des chutes d'astéroïdes, ou si elles se sont formées sur Cérès il y a très très longtemps, à l'époque où peut-être Cérès était au-delà de Neptune, c'est quand même une piste intéressante à suivre pour savoir ce qui s'est passé avant que les planètes comme la Terre se créent, et comment éventuellement la vie a pu apparaître, où se trouvaient ces briques. On ne connaît pas la recette encore. Hein. On a tous les ingrédients sur la table, mais on n'a pas le gâteau. Hein. Avant de passer de l'un à l'autre, il y a encore beaucoup de zones d'ombre, mais une des manières de les éclaircir, c'est d'aller voir ce qui se passe sur Cérès.
Louis Dendecourt, ça veut dire que l'histoire de la vie dans le système solaire qu'on connaît que sur la Terre serait forcément très liée à l'histoire du système solaire en lui-même?
Moi, je pense pas nécessairement, bien que, alors là, tout le monde ne partagera pas cette conviction, mais effectivement, finalement, il faut se ramener un peu aux ingrédients, il faut une chimie organique, il faut de l'eau liquide, il faut de l'énergie libre, probablement sous forme d'énergie lumineuse, une énergie qu'on appelle à basse entropie, avec peu de désordre, de manière à pouvoir commencer à organiser la matière organique et à pouvoir avoir une certaine réactivité chimique dans des directions qui permettent, par exemple, des reproductions ou des réplications moléculaires très rapides. Parce qu'il faut que le phénomène soit rapide, parce que sinon, bien entendu, cette chimie n'est pas stable. Donc il faut vraiment arriver à sortir de ce domaine dans lequel on est, finalement, dans un contexte dans lequel vous avez des centaines, voire des milliers de molécules organiques, alors qu'en fait, les différents nombres de briques originelles sont relativement faibles, si vous voulez. Donc il faut pouvoir organiser la matière. Et donc, imaginez que ça ne se produise que dans le système solaire, moi je trouve que c'est très exagéré, parce que vous avez des milliards d'exoplanètes, ça on le sait, donc il va y avoir potentiellement des centaines de millions d'endroits dans lesquels le même type de chimie va effectivement régner, et ça on l'observe avec des télescopes spatiaux ou au sol, et on observe des chimies très riches. Donc imaginez que ça n'arrive que dans notre système solaire, ça me paraît un petit peu réducteur. Non. Et je voudrais quand même être assez prudent, parce que le gros problème de la vie, c'est effectivement qu'il faut, de la vie, de la chimie prébiotique juste avant la vie, c'est qu'il faut en fait avoir des conditions qui soient stables, des conditions, je dirais, par exemple géologiques ou d'environnement, qui soient stables pendant une longue période. Si on prend ce qui s'est passé sur Mars, on s'aperçoit que Mars a eu beaucoup d'eau au début. Au bout de 500 millions d'années, pour des raisons que l'on comprend maintenant, l'eau est partie. Et puis, manifestement, la vie n'a pas survécu. Il n'y a pas de vie si elle a démarré sur Mars. Sur Vénus, c'est encore pire. Il fait 500 degrés. Vous ne pouvez pas imaginer une vie basée sur des protéines, par exemple. Et donc, on voit bien que sur trois corps qui sont produits au même endroit, au même moment et avec les mêmes ingrédients, il n'y en a qu'une qui abrite de la vie, c'est bien la Terre. Quand tu as parlé de vie sur Cérès, alors on n'en a strictement aucune idée.
En tout cas, on entend bien votre prudence, Louis Dendecourt, et c'était, en tout cas, on vous remercie pour ces commentaires sur cet objet Cérès qui vraiment intéresse beaucoup quand même les exobiologistes, pour en connaître plus donc sur la formation de la vie, et donc cette publication parue aujourd'hui dans Science. On retrouve des infos sur Ciel et Espace, Philippe?
Non, mais dans le prochain Ciel et Espace à paraître, vous retrouverez Louis Dendecourt d'ailleurs, puisqu'on consacre un dossier à la vie, à l'univers, et avec toutes ces questions qui sont abordées en profondeur.
Donc dans quelques jours à peine dans les kiosques. Merci beaucoup, Axel, merci.
Et bon week-end.